Ruth, verset 19 à 22. Alors, pendant que vous attendez, j'ai reçu une formule d'inscription du camp de Beau, donc si jamais il y a des parents qui veulent envoyer des enfants, j'ai une annonce, une feuille. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi, sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, merci de nous avoir donné cette parole. Cette parole qui est descendue du ciel, Seigneur, et que tu as imprimée dans un livre qui est le tien, la sainte parole de Dieu, les saintes écritures. Seigneur, que ces saintes écritures, Seigneur, ne restent pas seulement des caractères imprimés dans un livre ce matin, mais qu'ils puissent venir s'imprimer au plus profond de nos cœurs afin que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée. Que ton Saint-Esprit puisse agir dans le cœur de chacun ce matin. Toi, tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment de non seulement nous éclairer, mais de faire en sorte que nous soyons attentifs à ce que l'Esprit a à dire à son Église. Et c'est au nom de Jésus que je te le demande, Père. Amen. Un vieux fermier quelque peu dérangé arrive un jour à la conclusion que les flacons d'avoine qui servaient à nourrir sa mule, que les flacons d'avoine qui avaient nourri sa mule pendant des années lui coûtaient trop cher. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élaboré un plan pour économiser. Alors, il va commencer par mélanger un peu de sciure de bois avec la nourriture de la mule. Et jour après jour, il rajoutait à la nourriture de sa mule de la sciure de bois tout en diminuant la quantité d'avoine. La mule ne semblait pas remarquer le changement que le fermier faisait avec sa nourriture, de telle sorte que le fermier crut que les choses allaient bien, et il continua à alimenter la pauvre bête de cette façon. Au bout de quelques semaines, il en arriva à nourrir la pauvre bête uniquement avec la sciure de bois. Après avoir terminé de manger, eh bien, la pauvre mule tomba raide morte. Cette histoire, aussi ridicule qu'elle puisse être, illustre bien le chrétien qui s'éloigne toujours un peu plus du Seigneur, et qui croit toujours qu'il peut garder la même qualité de relation avec son Dieu. Même si nous savons que notre âme ne peut survivre, ne peut pas survivre qu'avec de la sciure spirituelle, nous pouvons très bien nous convaincre qu'un peu de sciure ajoutée à cette nourriture spirituelle ne nous fera pas tellement de tort et que nous ne verrons pas la différence. Avec le temps, le chrétien augmente la quantité de sciure charnelle dans sa vie, tandis que l'avoine spirituelle diminue graduellement de son cœur. Et au bout de quelques semaines, vous la voyez se nourrir exclusivement de sciure charnelle, et le manque de nourriture spirituelle qu'il a remplacé par de la nourriture, par de la sciure charnelle, eh bien, fait en sorte que sa relation avec Dieu est morte. Et c'est ainsi que Naomi s'est retrouvée avec un mari et deux fils décédés dans le pays de Moab. Elle n'a jamais voulu que cela arrive, mais un jour, elle s'est réveillée pour constater qu'elle était loin de l'endroit où le Seigneur voulait qu'elle soit. Et comme nous l'avons vu il y a deux semaines, Naomi s'était éloignée de son pays, elle s'était éloignée du pays de Dieu. Étant devenue veuve, ainsi que ses deux belles-filles, elle avait décidé de retourner dans son pays, et surtout vers Dieu. Et vous pouvez presque entendre Naomi dire, « Seigneur, j'ai perdu de précieuses années à vivre sans toi. Je reconnais mon péché, je me repens et je reviens dans ta maison, Seigneur. » L'histoire que nous avons devant nous, eh bien, concerne, c'est le point en tout cas que j'aimerais regarder dans les versets 19 à 22 ce matin, c'est le croyant qui revient à la maison du Père. Amen. C'est important. Alors, combien il y a de gens? Bon, je vais devancer la question que je vais vous poser tantôt. Mais combien de gens ont participé, ont fréquenté la maison du Père pendant des années et finalement qui, à faire un peu de compromis avec le monde, avec de la sciure charnelle, eh bien, se sont éloignés, ont délaissé lentement la nourriture spirituelle que le Père avait réservée pour eux à chaque jour, et à prendre la sciure charnelle, mélangée avec la nourriture spirituelle, eh bien, il est possible que, comme la mule, eh bien, on ne voit pas la différence, mais tôt ou tard, c'est nos âmes qui en souffrent. Et au risque de quitter le Seigneur, au risque de vraiment n'avoir plus de relation avec notre Dieu et se sentir complètement mort à l'intérieur de nous. Il est possible que Dieu parle ce matin à certaines personnes qui ont permis, par négligence, qu'un petit péché pénètre dans leur cœur au point où vous vous retrouvez spirituellement dans une position dont vous n'auriez jamais cru possible de vous retrouver. Vous analysez tout ce que vous avez perdu à cause de la condition spirituelle dans laquelle vous vous trouvez et vous vous demandez ce matin s'il y a de l'espoir d'être restauré, de retrouver votre santé spirituelle, cette vigueur spirituelle et cette relation que vous aviez avec Dieu dans le passé. Et la réponse à cette question, et moi c'est ce qui m'encourage dans les passages 19 à 22, eh bien la réponse c'est que c'est oui. C'est oui. On peut s'éloigner du Seigneur, mais on peut revenir aussi au Seigneur. Il n'y a rien qui est perdu avec Dieu. Et ce passage, je pense, a quelque chose à nous apprendre sur ce point. Nous voyons à Naomi ici l'expérience dramatique de quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Et pourtant, nous avons aussi, à travers elle, un merveilleux exemple de ce qu'est le pardon de Dieu. Nous voyons à travers elle l'expérience bénie de quelqu'un qui revient à Dieu. Nous lisons, verset 22, « Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth. Elles firent ensemble, verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et frères et sœurs, à partir du moment où elle avait quitté Bethléem avec sa famille pour s'en aller à Moab, 10 années s'étaient écoulées. Et on voit maintenant Naomi qui décide de revenir dans son pays. Et le retour de Naomi à Bethléem représente le croyant qui s'est éloigné de Dieu pendant un certain temps et qui revient au Seigneur. Naomi avait pris, une mauvaise décision lorsqu'elle quitta Bethléem et lorsqu'elle délaissa Dieu. Mais maintenant, elle prend une bonne décision lorsqu'elle décide de revenir au Seigneur. Et frères et sœurs, ce qui est important, je connais pas votre cœur ce matin, il y a peut-être une personne ici, il y en a peut-être pas, mais une ou même peut-être plusieurs personnes ce matin qui se sont éloignées de Dieu pour une raison quelconque, qui ont été séduits, comme Naomi, comme son mari, qui croyait que quitter Bethléem, la maison de pain, pour aller dans un pays qui était maudit par Dieu, eh bien qu'il recevrait la bénédiction, alors que la bénédiction se trouvait à Bethléem. Et ça, c'est une séduction du malin aussi. Nous faire croire qu'en quittant l'Église, qu'en retournant dans le monde, on va garder les mêmes bénédictions, la même relation avec notre Dieu, alors que la parole, elle est très claire là-dessus. Frères et sœurs, lorsque nous pensons à Bethléem, nous pensons à la ville qui loue Dieu. Si le mot Juda, on l'a vu au tout début, la première leçon, si le mot Juda signifie louange, Bethléem était l'endroit où le Seigneur était honoré et était exalté à cette époque. Il n'y avait pas de paroles de louange qui sortaient de la bouche de Naomi lorsqu'elle était dans le pays de Moab. Elle s'était éloignée de la maison du Père et elle ne pouvait donc pas avoir un cœur disposé à la louange, ni avoir une vie qui honorait le Seigneur en vivant loin de lui. Lorsque quelqu'un délaisse Dieu, au lieu de mener une vie qui glorifie Dieu, il attriste Dieu. Au lieu de mener une vie à travers laquelle Dieu est honoré, il le déshonore. Et combien il est triste, frères et sœurs, de voir des gens vivre une vie qui attriste et déshonore Dieu, alors que pendant tout un temps, ils ont honoré et glorifié Dieu. Combien de gens ont été responsables de ministère, combien de gens ont fréquenté l'Église pendant des années, ont été séduits, ont quitté l'Église, et ont continué à prier pour eux pour qu'ils reviennent. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Cette Église, elle a tout près de 82 ans d'existence. Si tous ceux qui ont connu le Seigneur ici, si tous ceux qui sont passés par l'école du dimanche, le groupe de jeunes, les différents ministères, n'avaient pas quitté cette église, il y aurait tout près de 500 personnes dans cette église ce matin. C'est incroyable. Surtout qu'à l'époque, les Polonais, ils ne se limitaient pas au niveau de la naissance des enfants. Ils en avaient des enfants. C'était la période où si on pouvait en avoir comme bon nous semblait. On m'a déjà dit qu'Anistas, qui était directrice de l'école du dimanche, avait 60 enfants à son époque, à l'école du dimanche. Cette église, si elle avait conservé tous ces gens, si le nombre de personnes qui ont fréquenté cette église, qui est née dans cette église, n'avait pas délaissé le Seigneur comme Naomi, cette église, il y aurait au moins 500 personnes ce matin dans cette église. Bethléem est non seulement l'endroit où Dieu est loué, mais c'est aussi l'endroit où Dieu est présent. Verset 6. Naomi, ayant appris que l'Éternel avait visité son peuple, au verset 6, retournait là où elle devait être. Elle revenait là où elle pouvait retrouver Dieu et vivre dans sa présence. Un croyant qui n'est plus en présence ou qui n'est plus en communion avec Dieu ne peut pas se réjouir de la présence du Seigneur. Mais lorsqu'il revient vers Dieu, il peut encore une fois se réjouir et expérimenter sa présence, car il y a d'abondante joie dans la présence du Seigneur. Amen. Car il y a d'abondance joie. C'est pas moi qui le dis, c'est le psalmiste, psaume 16, verset 11. Car il y a d'abondante joie dans la présence du Seigneur. Et bien, le piège humain, c'est quoi? C'est de nous faire croire qu'on peut être plus heureux à vivre sans Dieu que vivre avec Dieu. C'est de nous faire oublier ce que nous étions avant de connaître Dieu et essayer de nous tirer vers l'extérieur. Les chrétiens Robinson Crusoe, ça n'existe pas. Hein? Les chrétiens Robinson Crusoe qui sont tout seuls, ça n'existe pas. C'est pas pour rien que le Seigneur nous compare à une brebis. Une brebis, c'est faite pour vivre en troupeau. C'est, je le répète, hein, c'est une des seules créatures qui est née sans aucun moyen de défense. Le seul moyen de défense qu'elle a quand elle voit un lion ou un loup, c'est « bêh ». C'est tout ce qu'elle peut faire. Elle se fait bouffer. Et je trouve que c'est une belle image. Le Seigneur veut nous montrer notre vulnérabilité par rapport à l'ennemi. Que la force du chrétien, c'est vrai que c'est dans sa relation avec le Seigneur, mais aussi dans sa relation avec les uns et les autres. Dieu nous a donné une famille. On parle d'un père ce matin. Et Dieu nous a donné une famille dont il est le père. Il nous a donné un frère dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est ensemble qu'on constitue une force. Et c'est ensemble qu'on peut voir la présence de Dieu se manifester dans l'Église de Jésus-Christ. Bethléem est non seulement l'endroit où Dieu est loué, mais c'est aussi là où Dieu pourvoit. Le mot Bethléem, j'ai dit au début, signifie « maison de pain ». Naomi avait entendu parler que Dieu avait visité son peuple à Bethléem. C'est ce que le texte nous dit juste avant, le verset 19. Et qu'il lui avait donné du pain. Bethléem était l'endroit où Dieu répondait aux besoins de son peuple. C'était l'endroit où Dieu était à l'œuvre dans la vie de son peuple. C'était l'endroit où Dieu pourvoyait physiquement, mais aussi spirituellement à son peuple. C'est là que le pain de vie qui est descendu du ciel, la personne de Jésus-Christ, celui qui est le pain de vie, est venu au monde. Il a dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je la donne afin que le monde vive. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. Frères et sœurs, nous formons un seul corps parce que nous participons tous au même pain, dit l'apôtre Paul. Et ce pain et ce sang nous rappellent la mort, nous rappellent non seulement la mort, mais aussi la résurrection de Jésus-Christ. Et la parole est claire, de la même manière que Dieu a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, de la même manière, Dieu nous ramènera aussi de la mort à la vie. Ça, c'est votre espérance vivante ce matin. Et j'espère que c'est l'espérance vivante de toute personne ici présente ce matin. Que vous ayez aucun doute. Dieu n'est pas menteur, le père du mensonge, c'est le diable. Dieu n'est pas meurtrier, celui qui est meurtrier depuis le commencement, c'est le diable. Et le Seigneur, il est l'auteur de la vie. Il est la source de vie. Il est le pain de vie. Et il a dit que de la même manière que Dieu l'avait ramené de la mort à la vie, eh bien, il fera la même chose pour nous à la fin des temps pour qu'on puisse, non pas seulement qu'habiter avec lui, mais l'Apocalypse, il est clair, pour régner avec lui, quoi. Hey, extraordinaire, ça. Merveilleux. C'était dans la ville de Bethléem que Naomi trouverait la meilleure des provisions de Dieu. C'était là qu'elle pouvait recevoir la nourriture dont elle avait besoin. Ainsi en est-il avec nous. L'homme ne peut vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Oui. Un des grands pièges du malin, c'est de vous convaincre que vous n'avez pas besoin de l'Église pour vivre votre vie chrétienne. On a besoin des uns des autres. Non seulement le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, mais comment pouvons-nous apprendre à nous aimer les uns les autres si nous n'apprenons pas à nous fréquenter les uns les autres? Si nous n'apprenons pas à nous rencontrer les uns les autres là où Dieu nous appelle à nous rencontrer? En tout cas, au moins le dimanche matin. Il y a d'autres journées dans la semaine où on peut se rencontrer à l'église, mais au moins le dimanche matin. Les meilleures bénédictions de Dieu sont réservées pour ceux qui demeurent là où il est à l'œuvre. Lorsque quelqu'un vit loin de Dieu, il se prive des bénédictions de Dieu, alors que pendant tout un temps, Dieu agissait et bénissait sa vie. Maintenant qu'ils ont délaissé Dieu, ils ne reçoivent plus ces bénédictions qu'ils ont tant appréciées. Il arrive que Satan chuchote aux oreilles de ceux qui ont délaissé Dieu qu'ils ne verront plus jamais Dieu à l'œuvre dans leur vie. Mais Satan est un menteur, et lorsque cette personne revient à la maison, il trouvera toujours un Dieu qui est prêt à pardonner et à prendre plaisir à se faire encore connaître dans leur vie. Dieu nous connaît. C'est vrai que Dieu vise la perfection à travers nous. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit Jésus. C'est l'équivalent de soyez saints comme je suis saint, dit l'Éternel. Mais le Seigneur nous connaît. Il connaît nos travers, il connaît nos faiblesses. Et il a un plan d'entraînement pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est à travers nous que Dieu veut se glorifier. Et quand vous pensez à ça, c'est à travers vous que Dieu veut se glorifier. Jeudi soir, à la réunion de prière, on a parlé de faire attention de ce qui sort de nos bouches. Quand on pète un câble parce que ça fait pas notre affaire, on vient de rater une belle occasion de faire en sorte que Dieu se glorifie à travers nous. On ne devrait jamais péter un câble, mais surtout quand on pète le câble au milieu des païens, quel témoignage! Quel témoignage! Comment peut-on faire pour rattraper ça, quoi? Des fois, il y a une parole qui sort, on voudrait l'attraper, mais elle est sortie, quoi. Quand elle est entendue, elle est trop tard, elle est sortie, quoi. Et moi, je dois faire attention à ça, quoi. Bon, mon problème, c'est pas de commencer à parler, c'est de m'arrêter à parler, quoi. Et très vite, dans le monde, j'étais très vite pour dégainer les flèches. Et c'est une de mes faiblesses encore aujourd'hui, quoi. Faire très attention. Et rappelez-vous, Dieu veut se glorifier à travers ses enfants, quoi. Dieu veut que finalement, au bout du compte, dans nos vies chrétiennes, à travers les expériences qu'il nous permet de vivre jour après jour, que les gens puissent en venir à entendre à travers nous les paroles de Jésus-Christ, quoi. Dieu veut, à travers les différentes expériences et différentes épreuves qu'il nous permet de vivre à chaque jour, que nous marchions comme Jésus-Christ a marché. C'est ce que Jean dit dans sa première épître, quoi. Bethléem nous rappelle aussi que c'est l'endroit où le peuple de Dieu habitait. Bethléem était l'endroit où le peuple de Dieu habitait et se rassemblait. C'était l'endroit où le même esprit régnait, où on se retrouvait, où se retrouvaient des gens qui avaient la même espérance. Dans le pays de Moab, Naomi était une étrangère, tandis qu'à Bethléem, elle se retrouvait en famille. Frères et sœurs, à partir du moment où on est passé par cette nouvelle naissance, cette rencontre intime et personnelle avec Jésus-Christ, retourner dans le monde, si on a vraiment vécu cette expérience, on va toujours se sentir comme des étrangers. Je vais vous raconter une anecdote. C'est un de mes, mon deuxième pasteur qui m'a raconté ça, qui s'appelle Philippe Hainaut. Donc, c'est le deuxième Belge que j'ai rencontré au Québec. Le premier, c'était son père, René Hainaut. Et le deuxième, c'est son fils, Philippe, qui est devenu mon pasteur. Et à un moment donné, il a décidé d'aller un peu dans le monde. Et il était dans un bar un soir avec des copains. Et puis, ils se sont commandés. Alors, le serveur est arrivé, il a commencé à vouloir prendre la commande de chacun. Et il est arrivé à lui, il a dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi, c'est pas ta place. » Il pensait de perdre connaissance, quoi. Il connaissait pas le serveur. Le serveur, c'est la première fois qu'il le voit. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi, c'est pas ta place avec ces gens-là. C'est pas ta place d'être ici. Ils ont le voir dans tes yeux. » Ouais. Même s'il avait voulu imiter les gens du monde, il demeure un étranger dans le monde. Enfant de Dieu, celui qui a vraiment vécu cette expérience avec Dieu, il est un étranger dans le monde. Sa place, c'est dans l'Église. Sa place, c'est là où Dieu habite. Là où Dieu, là où les chrétiens se fréquentent ensemble, en tant que famille. Nous pouvons nous réjouir de voir Naomi revenir à la maison. Nous la voyons revenir à Bethléem, l'endroit où on loue Dieu, l'endroit où Dieu est présent, l'endroit où Dieu pourvoit son peuple. Et lorsque quelqu'un revient au Seigneur, eh bien, et qu'il rétablit sa communion avec Dieu, il peut goûter combien le Seigneur est bon. Voyez combien le Seigneur est bon. Et merci Seigneur que tu sois lent à la colère. Merci Seigneur que tu sois miséricordieux. Merci Seigneur que tu es un Dieu qui pardonne. Merci aussi Seigneur que tu es un Dieu qui taloche quand on cherche à s'en aller, comme des brebis entêtées, se séparer, quitter le troupeau. Et quand, si on appartient vraiment au Seigneur, on peut être certain que le Seigneur va venir nous chercher. Le Seigneur ne prendra pas le risque de perdre une brebis. Vous savez, à l'époque d'Israël, quand une brebis était tellement entêtée pour quitter le troupeau, le berger allait la chercher. Et quand elle était trop entêtée pour comprendre, il cassait les deux jambes en avant. Il pouvait faire des kilomètres pour trouver sa brebis. Il lui cassait les deux jambes en avant. Et comme un bon berger, il la portait sur ses épaules pour la ramener parmi le troupeau. Il bandait ses plaies et prenait des semaines à s'occuper pour qu'elle puisse se rétablir. Mais il lui enseignait une chose, tu dois rester avec le troupeau. Je suis ton berger, je veille sur toi. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. Si on appartient vraiment au Seigneur et qu'on cherche à s'éloigner de Dieu, si on cherche à s'éloigner du troupeau, tôt ou tard, celui qui est le bon berger va permettre que des choses surviennent dans nos vies pour nous ramener dans le troupeau. Amen. Versets 19 à 21. Pensez maintenant au témoignage que Naomi a donné à son retour. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. La nouvelle du retour de Naomi, seule, brisée, accompagnée d'une païenne, se répandit dans toute la ville. Et les femmes disaient, le texte nous dit ici, les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? » Elle a prononcé un jugement. Pas s'est prononcé pour moi, s'est prononcé contre moi. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Elle témoignait que cela était la conséquence d'un choix qu'elle avait fait, celui d'avoir délaissé Dieu. Elle parle du châtiment de Dieu, 20-21. Ou, si vous voulez, comment, jusqu'à quel point Dieu l'a éprouvé. Si le mot châtiment fait trop peur ce matin, comment, jusqu'à quel point Dieu l'a éprouvé. Verset 20-21. Le Tout-Puissant s'est prononcé contre moi, il m'a affligé. Remarquez que ses paroles révèlent la condition de son cœur à mon départ, verset 21. Le mot Naomi signifie agréable et le mot Mara signifie amertume. Le verset 21 nous rappelle que lorsque Élimélec quitta Bethléem pour aller vivre dans le pays de Moab, c'était un homme riche. À son départ, elle quitta Bethléem dans l'abondance et elle revient les mains vides. Le plan du Seigneur, c'est de nous combler de ses bienfaits, mais le plan du diable, c'est de nous vider de la présence de Dieu. Amen. C'est pas de nous débarrasser de nos biens. Mais si, écoutez, si on est passé par cette nouvelle naissance, je ne l'ai pas lu tantôt dans Jean chapitre 6, mais Jésus dit que celui qui mange ce pain, qui boit ce vin, et qui boit ce sang, eh bien, lui va habiter et il vient habiter en nous. Frères et sœurs, la pire chose qui peut arriver à un chrétien, c'est de ressentir que Dieu n'est plus présent dans sa vie, quoi. Quel vide spirituel incroyable, quoi. Quel trou, quel abîme sans fin, quoi. Dieu peut prendre tous nos biens, quoi. Et sa présence. On construit notre espérance sur la présence de Dieu qui habite en nous par son Saint-Esprit, quoi. Cette assurance qui dit dans nos pères, dans nos cœurs, Abba Père, qui certifie que nous sommes les enfants de Dieu, que nous lui appartenons, que la promesse, elle est pour nous, quoi. Cette promesse éternelle, elle est pour nous. Verset 21, elle parle de la providence de Dieu. Elle va raconter comment le Seigneur a agi pour la ramener à la maison. Et je me demande combien de fois elle a dû parler de la mort de son mari, de ses fils, aux gens venus la rencontrer. Elle dit, verset 21, « L'Éternel me ramène. » Me ramène. J'appartiens à l'Éternel, je l'ai délaissé, j'ai vécu sans lui pendant 10 ans. L'Éternel, parce que je lui appartiens, a trouvé des moyens, a utilisé des moyens pour me ramener. Elle est confondue par Dieu qui a mis en lumière son péché. Maintenant, Dieu la ramène dans son pays. Frères et sœurs, une chose qui est aussi certaine que le gazon est vert, que l'eau est humide, que la glace est froide et que le feu brûle, c'est que Dieu discipline toujours celui qui lui appartient pour qu'il lui obéisse. Amen. Pas facile, celle-là, à dire amen, hein? Amen? Ah ouais. C'est pas dans le nombre, dans le livre des nombres, qui dit « Sois certain que ton péché va t'atteindre. » Ne me trompe pas, c'est nombre 33. Hein? Soyez certain que votre péché va vous atteindre. Vous êtes tout seul à le connaître? Non, jamais vous êtes tout seul à connaître ce que vous avez fait. Oui. Il y a toujours deux. Le Père et vous. Il n'y a rien qu'on peut cacher au Seigneur. Jonas l'a très bien compris. Et tôt ou tard, par un éclair, c'est une promesse. Soyez certain que votre péché finira par vous atteindre. Soyez certain que tôt ou tard, vous allez finir par payer les conséquences de votre péché. Ça, c'est une promesse. Pas belle à entendre, mais c'est une promesse de la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Jonas a découvert une leçon importante dans sa vie avec Dieu. Vous pouvez vous sauver, mais vous ne pouvez pas vous cacher définitivement de lui. En fait, il a découvert que vous ne pouvez pas fuir et encore moins vous cacher de la face de Dieu. Naomi a découvert que même si elle avait délaissé Dieu, il ne l'avait pas abandonné. Quelque part, je ne sais comment, Dieu confrontera le croyant qui a délaissé la maison et le placera devant un choix éternel, celui de revenir à la maison. Elle parle, verset 21, elle parle de la patience de Dieu, comment Dieu l'a éprouvée durement. Elle partagea les problèmes qu'elle avait, mais le Seigneur avait œuvré durement dans sa vie pour la ramener à la maison. Pourquoi elle et non pas Imilec, Machlon et Chilion? Pourquoi? Peut-être que leur cœur s'était endurci, tandis que Naomi était toujours enseignable. En tout cas, le texte ne le dit pas, mais Dieu a ramené Naomi à la maison du Père. Il y en a peut-être certains parmi vous qui peuvent témoigner ce matin comment un jour Dieu vous a ramené à la maison. Si vous êtes aujourd'hui dans sa maison, c'est parce que Dieu a pris les moyens pour vous y ramener un jour. Pensez-y comme il faut. Dieu a peut-être placé un frère sur votre chemin, qui vous a parlé, qui vous a dit la parole que vous deviez entendre cette journée-là. Il y a un déclic qui s'est fait, et vous êtes revenu à la maison du Père. Vous avez réalisé que vous aviez tout à perdre à continuer à vivre loin de la maison du Père. Et le déclic s'est fait, vous êtes revenu. Revenez à la maison du Père. Le Seigneur, en fait, vous a ramené par le biais de quelqu'un, par le biais d'un événement, par le biais de quelque chose dans sa maison. On peut le louer que si souvent nous, on est découragés, désespérés, déprimés, le Seigneur, lui, il l'est jamais. Malgré souvent nos écarts de conduite, malgré souvent qu'il est le deuxième dans nos vies, le Seigneur, lui, est jamais désespéré. On n'est jamais une cause perdue pour le Seigneur. C'est pas extraordinaire, ça. On n'est jamais une cause perdue pour le Seigneur. Ça, c'est un sujet de louange ce matin. Et on pourrait même le louer pour les causes perdues, quoi. Mais pour le Seigneur, on n'est jamais, jamais une cause perdue. C'est lui qui restaure mon âme et qui nous conduit dans les sentiers de la justice, dit le psalmiste au psaume 23, verset 3. Verset 22, le moment où elle est revenue à Bethléem, c'est pas le fruit du hasard. C'était pendant la période des sacrifices. Il est écrit que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab à Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'était pendant la période qui correspond à la période de Pâques, où on sacrifiait un agneau et que le sang versé rappelait la libération du peuple d'Israël de son péché. Exode chapitre 12. C'est une image qui parle de pouvoir rentrer à la maison du Père à travers le sang de l'agneau. Béni soit Dieu lorsque quelqu'un revient à la maison. Remercions le Seigneur, car le sang de l'agneau suffit pour nous purifier de tout péché. Et lorsqu'une brebis égarée revient à la maison du Père, prions le Seigneur que nous ne portions pas un esprit de jugement sur cette brebis égarée qui réintègre le troupeau. Si le Seigneur la trouve digne de réintégrer le troupeau, qu'on ne porte pas un regard sur sa vie passée, qu'on n'essaie pas d'analyser ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était à l'extérieur du troupeau, pendant qu'elle a abandonné Dieu, pendant qu'elle a délaissé Dieu. Si Dieu l'accepte, qui sommes-nous pour rejeter une brebis égarée qui revient dans la maison du Père? C'était aussi une période où les gens participaient. Hein? Elle est revenue au moment où une période où les gens participaient à recevoir des bénédictions. C'était aussi la période de la fête des prémices, Lévitique chapitre 23. Une période où le prêtre offrait au Seigneur la première récolte d'orge en jeune gerbe en signe de reconnaissance pour la récolte qui était sur le point d'être moissonnée. Et lorsque le prêtre offrait cette gerbe, il disait, ce n'est que la première gerbe. Il y en a d'autres qui nous attendent et ils louaient le Seigneur. Parce qu'ils reconnaissaient que tout ce qu'ils avaient, les fruits de la terre, ça venait, c'était Dieu qui avait produit ces fruits. Aujourd'hui, avec tous les produits chimiques, l'herbicide, les insecticides qu'on répand sur la terre, on a l'impression que c'est l'homme qui fait pousser, puis c'est l'homme qui développe. Ici, Dieu met pas sa main bénissante. Il y a des terres qui ont déjà été très fertiles, qui ont mis Dieu en dehors de leur pays, et qui aujourd'hui, c'est crevassé. C'est rempli, c'est crevassé par la sécheresse. On voit l'empreinte de la sécheresse qui crevasse ces terres, qui sont incultivables. Dieu, c'est toujours la main de Dieu qui produit la bénédiction. La fête des prémices nous rappelle que Jésus est présenté comme, tourne avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 et 23. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, demeurent de même aussi tous revivront en Christ. » C'est-à-dire que Christ est le premier qui est revenu de la mort à la vie, annonçant ici à d'autres qui reviendront aussi de la mort à la vie lors de son retour. Remarquez que lorsqu'un enfant errant revient à la maison, c'est toujours un temps de moisson. C'est toujours un temps de moisson pour l'Église. Lorsque quelqu'un revient à la maison, reviendra à la maison, il découvrira que le sang de Christ le purifie de tout péché. Remercions Dieu qu'il y a un pardon qui est accordé à quiconque revient à lui. Amen. Pensons au fils prodigue. Mais il a d'abord réfléchi. Il a pris une décision. Il s'est repenti. Et il est revenu à la maison du Père. On ne revient pas à la maison du Père en claquant des doigts et en pensant que Dieu a tout oublié ce qu'on a fait. Comme le fils prodigue, on réfléchit. On prend la décision de se repentir et de revenir à la maison du Père. C'est exactement ce que Naomi fait ici. C'était une période aussi de renouveau. Naomi voulait que son nom soit changé, qu'on l'appelle Mara. Et regardez au verset 22. Lorsque le Saint-Esprit mentionne son nom, verset 22, elle voulait que son nom change. Mais le Saint-Esprit a décidé que son nom, ce serait Naomi. Elle peut avoir eu de l'amertume dans son cœur, mais le Seigneur avait d'agréable, puisque Naomi signifie agréable. Le Seigneur avait d'agréables bénédictions en réserve pour Naomi. Rappelez-vous la première réaction des gens de Bethléem au verset 19. Est-ce là Naomi? Ils étaient étonnés de l'avoir arrivée dans cet état. Si le péché apporte des problèmes, le Seigneur était sur le point de lui accorder des bénédictions et des choses qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer. Bien des gens peuvent être attristés de la condition dans laquelle se trouve le pécheur, mais il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pour un seul pécheur qui se repent. Mes amis, est-ce que Dieu ce matin vous a visité, vous a parlé à travers son message ce matin? Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas comment est votre vie spirituelle. Je ne sais pas s'il y a de la sueur charnelle dans votre vie ce matin. Mais il y a de l'espoir, comme Naomi. Il y a de l'espoir de revenir à la case départ. Il y a de l'espoir de rétablir votre relation avec Dieu si c'est votre cas. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ a raconté l'histoire d'un garçon qui avait quitté la maison de son père pour s'amuser et vivre toutes sortes d'aventures dans le monde. Et lorsque ce garçon a perdu tout ce qu'il avait et qu'il se retrouvait dans un endroit où il n'aurait jamais pensé se retrouver, eh bien, et qu'il a décidé de retourner à la maison de son père, eh bien, le père l'a accueilli. Il a trouvé quoi? Un père qui l'aimait, qui était prêt à lui pardonner, à le restaurer dans une parfaite communion avec lui et à le bénir. Et si c'est votre cas ce matin, n'écoutez pas le mensonge du diable, peu importe ce que vous vivez. Réfléchissez à votre situation. Prenez la décision de revenir vers le père en confessant votre péché, en vous repentant, et vous allez trouver Dieu, ce père bienveillant, qui va vous accueillir les bras ouverts. Et comme l'image du fils prodigue, voyez cette image du Père qui vous attend. Qui vous attend. Depuis le moment où vous l'avez délaissé, le Père vous attend. C'est à vous à faire le pas. Ce matin, si c'est votre cas. Alors, si c'est ce que vous avez besoin ce matin, alors faites un pas. Faites un pas vers lui. Peut-être que d'autres ici dans ce lieu ce matin ont besoin de venir au Seigneur pour être sauvés. Parce que vous n'avez aucune espérance vivante aujourd'hui, mais Dieu veut remplacer la tristesse de votre péché ce matin, la perspective de l'enfer dans votre vie, par sa paix et l'espérance vivante de passer l'éternité dans son paradis. Jésus-Christ est mort pour vous, et si vous venez à lui aujourd'hui dans sa grâce, il vous sauvera. Si on retourne à l'époque de Naomi, écoutez, un peuple, c'était le peuple d'Israël, le peuple élu, une femme avec sa famille qui délaisse Dieu en pensant trouver la bénédiction dans un pays maudit par Dieu. Et que Dieu la rétablit lorsqu'elle revient à lui. À combien plus forte raison, nous, qui sommes sauvés à travers le sang de Jésus-Christ, à travers son sacrifice. Eh bien, non seulement nos péchés sont couverts, mais nos péchés sont effacés. Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. À combien plus forte raison, comme le Père, le Fils prodigue qui revient à la maison. Le Seigneur vous attend les bras ouverts. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et que ces quelques versets puissent nous rappeler ce matin que Dieu ne rejette personne. Qui revient à lui, qui revient à la maison du Père. Amen.